Bienvenue à tous dans la seconde partie de ce transversal spécial lecture. Après le micro-trottoir, voici maintenant le focus. Si notre micro-trottoir a dû ajouter de nombreux titres à votre liste de lecture, c'est maintenant au tour d'Isabelle, Swan et Anne-Laure de vous faire quelques propositions de leur cru. Nous allons procéder simplement. Et pour commencer, je voudrais que vous me citiez une scène de roman qui vous vient souvent à l'esprit. Isabelle, à toi l'honneur.
Alors, c'est une scène de La mort à Venise de Thomas Mann qui me revient souvent à l'esprit. Et c'est une scène pleine d'espoir, de sensualité, de pureté et de vice à la fois, tout un programme. Gustave Aschenbach, vieil écrivain en voyage à Venise, tombe amoureux d'un jeune homme, Tadzio. Et tous les matins, étendu sur la plage, Gustave Aschenbach attend le passage du jeune garçon. Et tous les jours, d'abord rayonnant de pureté et peu à peu complice de cet amour qui ruine la morale et la vie du vieil homme, Tadzio passe près de l'homme qui se ronge d'amour pour lui sans jamais l'effleurer. Et c'est cette scène, toujours la même, mais toujours plus ancrée dans le vice, qui conduira Gustave Aschenbach vers la mort.
Swan, tu te sens d'enchaîner après cette...
après cette brillante démonstration, bah écoutez, si je devais citer toutes les scènes que j'ai bien aimées dans les livres, ce serait bien difficile, mais bon, j'ai pensé à... c'est l'acte 2 ou l'acte 3, je ne sais plus exactement, des Juifs, de Robert Garnier. En fait, c'est la tirade de Nabucodonosor, donc le roi de Babylone, qui, dans une apostrophe au dieu, à Jupiter, montre toute l'étendue de son orgueil et son sentiment de toute puissance. Donc c'est aussi une réflexion sur le pouvoir et sur le châtiment. Et si vous voulez, je peux vous en dire quelques vers.
Mais alors, vas-y.
Pareil au dieu, je marche, et depuis le réveil, du soleil blondissant jusqu'à son sommeil, nul ne se parangonne à ma grandeur royale. En puissance et en bien, Jupiter seul m'égale. Et encore n'était qu'il commande immortel, qu'il tient un foudre en main dont le coup est mortel, que son trône est plus haut et qu'on ne le peut joindre, quelque grand dieu qu'il soit, je ne serai pas moindre.
Je précise que tout cela a été dit de mémoire, les yeux
fermés.
Et je passe la parole à Anne-Laure.
Alors moi, personnellement, une scène qui me revient régulièrement à l'esprit, c'est une scène de Justine ou les malheurs de la vertu, de Sade, qui me revient aux petites heures de la nuit. Mais je vais vous passer les détails et je vous renvoie au corpus.
Merci Anne-Laure. Et vous pouvez tous contacter Anne-Laure sur le site de Transversar. Et maintenant, soyons un peu plus innocents, quel est le livre qui vous a fait le plus rire? Isabelle? Ah non, Swan.
D'accord, je prends la place d'Isabelle.
Je cède ma place, Swan.
Alors, moi j'ai pensé au Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams, et notamment de ses suites. Alors c'est une parodie de science-fiction en fait à la base des années 1980 qui devient en fait un monde à part entière, un univers complètement décalé. Et c'est là notamment qu'on apprend que la réponse est 42 à la grande question sur l'univers, sur la vie et sur tout le reste. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est surtout l'humour omniprésent. Dans tous les exemples, c'est trop difficile à citer, mais on peut penser par exemple au robot dépressif, Marvin. Et au fait,
bon
il
exemple.
Faut toujours emmener une serviette quand on part en voyage spatial. Et je précise que le sixième tome, qui sera écrit par Owen Colfer, paraîtra en France en mars 2010. Alors Anne-Laure, à toi l'honneur.
Alors nous serons au rendez-vous. Moi, pour les livres qui m'ont fait le plus rire, moi, j'ai des goûts un peu plus raffinés, Swan, qui ne parle pas de voyage en espace. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, les comédies de Shakespeare. Bon, ça fait très intellectuel, mais contrairement souvent à ce qu'on croit, il y a beaucoup de grossièreté. On a du burlesque, des jeux de mots, notamment dans le Songe d'une nuit d'été, que j'aime beaucoup. On a un personnage qui se transforme en âne, dont une déesse tombe amoureuse.
Mais il me semble que tu oublies la torche.
Et la torche aussi.
Ah oui, la torche.
Le personnage de la torche.
La torche.
Voilà, pour ma part.
Isabelle, à toi.
Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas très bon public pour les livres non plus. Donc, j'ai eu un petit peu de mal à trouver un livre qui m'ait réellement fait rire. Donc, je contourne un peu les règles pour parler du roman « Disent les imbéciles » de Nathalie Sarraute. Et en effet, ce n'est pas vraiment du comique du livre que naît le rire à cette lecture. Ce serait plutôt de la sensation d'être complètement empêtré dans la narration et de ne pas avoir la sensation d'avancer, en fait, au cours du livre. Mais ce rire provoqué par l'impuissance, par mon impuissance de lectrice, s'est peu à peu transformé en rire nerveux, en réaction à l'enfermement terrible et terrifiant des personnages dans la question ontologique de la bêtise et de la rupture qu'elle crée entre les hommes.
Un robot galactique, un homme qui se transforme en âne, et un rire angoissant, tout un programme. Et maintenant, s'il vous plaît, défaites-vous de toute pudeur mal placée pour m'avouer de quel personnage vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Anne-Laure?
Bon, moi, je dois avouer que j'ai un petit faible pour les yeux verts, la cicatrice d'Harry Potter. Même si le film m'a grandement choquée, parce qu'il faut préciser que dans le film, l'acteur, dont je ne me souviens plus du nom, a les yeux bleus. Alors, il aurait pu quand même mettre des lentilles, parce que dans Twilight, les acteurs, ils ont mis des lentilles hein, pour avoir des yeux de vampire. Donc, je trouve qu'Harry Potter aurait pu le faire.
Je vais prendre la suite d'Anne-Laure hein, pour préciser que par rapport à la science-fiction, donc, qui est donc de la sous-littérature, c'est ça, Twilight, c'est vachement mieux. Et moi, j'ai pensé, alors j'avais pas vraiment d'idée pour ce personnage dont je serais tombé amoureux, mais après j'ai pensé évidemment à Clélia Conti. Puisque dans la Chartreuse de Parme, quel garçon ne serait pas tombé amoureux d'elle dans les prisons de la tour Farnèse hein, bon, non, enfin, j'avais pas vraiment d'idée, donc je me suis dit que j'allais raviver des bons souvenirs. Voilà, ceux qui ont passé le concours en 2008.
On lancera un sondage sur la vie masculine au sujet de Clélia Conti. Isabelle ?
Alors, je préviens tout de suite, ce n'est pas un personnage extrêmement glamour dont je suis tombée amoureuse, étant donné que dans le livre dans lequel il est, toute son existence tourne autour de sa mère. Donc, c'est le personnage, en fait, de Romain Gary dans son livre autobiographique La promesse de l'aube, qui dévoile donc sa relation avec sa mère jusqu'à ce qu'elle meure. Ce qui rend ce personnage bouleversant, ce sont d'abord les yeux de sa mère, qui n'a pour lui que des rêves extraordinaires. C'est un amour exclusif, vital, extrême, qui fait du jeune homme un être façonné par cette confiance aveugle en l'avenir. Et portée par l'amour de cette mère, je n'ai pu que tomber amoureuse de ce personnage dont l'origine est cette extraordinaire promesse de l'aube faite entre la mère et le fils.
Et maintenant, un petit jeu de mémoire. Est-ce que vous pourriez me réciter, comme Swan l'a fait tout à l'heure, quelle est la première phrase que vous préférez, Isabelle ?
Alors, la première phrase que j'ai préférée, c'est la première phrase de La Terre de Zola. Donc, cette phrase, je cite, « Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche, et, de la droite, tous les trois pas, il prenait une poignée de blé que, d'un geste, à la volée, il jetait. » J'ai trouvé magnifique cette phrase, donc, qui reproduit le semis dans les champs, cette espèce de gestes magnifiques de la naissance.
Tu m'as absolument bien reproduit le rythme à la lecture.
Je t'en remercie.
Alors,
je ne sais pas vraiment si, pour ma part, j'ai une phrase préférée. En tout cas, il y a une phrase que j'ai retenue, une phrase d'adolescent en crise, un peu mélodramatique, écrite par Paul Nizan. C'est la première phrase d'Aden Arabi. Il écrit « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. »
Quel âge as-tu ?
21, et j'en suis bien contente.
Swan, tu termines ?
Eh bien, je termine. Moi, je vais citer l'Incipit des nourritures terrestres d'André Gide. Enfin, donc, cet Incipit, je vais citer la première et la dernière phrase, puisque, de toute façon, c'est au début du livre. Alors, c'est « Ne te méprends pas, Nathanaël, au titre brutal qu'il m'a plu de donner à ce livre, j'eusse pu l'appeler Ménalque, mais Ménalque n'a jamais non plus que toi-même existé. » Etc. « Que mon livre t'enseigne est intéressé plus à toi qu'à lui-même, plus à tout le reste plus qu'à toi. » Alors, je ne saurais pas trop décrire pourquoi j'aime donc ce livre dans son intégralité, et surtout Sandy Kimpit, puisque c'est tout simplement une expérience poétique, unique, et qui m'a touché, quoi. Voilà, tout simplement.
Alors, je suis désolée d'avoir à interrompre ce beau moment d'émotion, mais par souci d'intégrité journalistique, je dois vous préciser que Swan est allé chercher sa phrase sur un site internet spécial de première phrase.
C'est faux.
Dont il m'a lui-même révélé l'existence hier.
C'est faux, je n'ai pas retrouvé ce site.
Bon, oui, enfin, si on doit continuer dans l'intégrité journalistique, Nina, tu nous as dit en annonçant cette question, est-ce que vous pouvez nous citer de mémoire alors qu'on a tous une feuille devant nous et qu'on s'est tous creusé la tête pour trouver cette phrase.
Je vous avais demandé de la prendre par cœur. Enfin, pour terminer, loin de ces querelles, glissons de la lecture à l'écriture et dites-moi, de quel livre voudriez-vous être l'auteur, Swan, sans rancune?
Bah, écoute, moi, j'ai pensé tout de suite en fait à Tristram Shandy, donc de Stern. Donc, au-delà du fait que je fais mon mémoire dessus, j'ai adoré ce livre. Bon, c'est l'un des piliers en fait, précurseur du roman moderne, hein, quand même, avec le Don Quichotte de Cervantes et puis le Rabelais et puis ses suites Gargantua, pardon.
Quoi? Sur une émission culturelle.
Pardon. Gargantua, pardon, et ses suites de Rabelais. Et je pourrais pas citer tout ce qui fait de ce livre un chef-d'œuvre, mais bon, il y a évidemment de l'humour, une verve satirique, une galerie de personnages exceptionnelle, et surtout l'écriture digressive aussi qui en fait un désordre savamment orchestré, une écriture labyrinthique qui tient le lecteur en haleine du début à la fin. Et voilà, j'aurais bien voulu écrire ce livre, effectivement.
Moi, j'aurais bien aimé écrire l'ivresse de la métamorphose de Zweig, qui raconte l'histoire d'une jeune employée autrichienne, jeune employée d'un bureau de poste, qui mène une vie misérable avec sa mère qui est malade, jusqu'à ce qu'un beau jour, une riche tante l'invite dans un hôtel luxueux dans les Alpes, où elle y mène une vraie vie de château. Mais le retour en Autriche marque le début d'une spirale infernale. Elle ne retrouve plus le goût de la vie. Elle rencontre un jeune homme désillusionné comme elle. Et Zweig nous montre dans ce livre que l'amour et la pauvreté, au fond, sont incompatibles. À la fin, les personnages veulent se suicider, mais on ne sait pas s'ils se suicident. Zweig, lui, en revanche, met fin à ses jours juste après avoir écrit ce livre. Et l'idée que j'aime, c'est qu'au fond, les personnages, sur le papier et dans l'imagination des lecteurs, lui survivent et survivent peu importe ce qui arrive au fond dans la vie réelle.
Merci.
Isabelle, pour terminer.
Alors, le livre que j'aurais aimé écrire s'intitule « Que ma joie demeure ». C'est un roman de Giono. Et c'est un roman qui est un petit peu à la marge de l'œuvre de Giono et je trouve aussi un peu à l'écart de la littérature tout court. C'est une œuvre qu'on a dite lyrique et elle l'est peut-être puisqu'elle fait état d'une harmonie entre tous les éléments d'un cosmos qui, en fait, dans le roman, se restreint à un petit groupe de maisons en plein champ. Et la cohésion fragile entre les hommes et les femmes, cette cohésion fragile, pure, sensuelle également, mais aussi le rapport à la nature et la simplicité du monde, font une œuvre extrêmement poétique que j'aurais aimé écrire, oui.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci Isabelle d'avoir participé à la réalisation de cette émission. Et je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez intervenir dans notre émission, il vous suffit pour cela d'écrire à Transistor, à transistor@hotmail.fr. Enfin, voici un petit guide pratique pour occuper vos jours et vos nuits, la Cisaine lyonnaise. Alors tout d'abord, je vous rappelle le 5 février, le gala de l'ENS. Et d'ailleurs, Transistor vous propose 2 places à gagner. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question « Qui est l'invité de Sans Transition ?» Enfin, que se passe-t-il à Lyon? Eh bien, au théâtre, vous pourrez aller voir La petite Catherine de Hale Brown, de Kleist, dans une mise en scène de André Engel jusqu'au 24 janvier au Studio 24. Nous vous recommandons également un tour sur la grande roue de la place Bellecour qui fonctionne elle jusqu'au 12 février. Et puis après cette émission entièrement tournée vers l'ENS, et sachant que notre ami Pierre souhaite vivement voir ce qu'il se passe en dehors, je vous recommande une excellente exposition sur Georges Rouault intitulée « L'art et le sacré » qui se tient en Corée du Sud au Seoul Art Center jusqu'au 28 février. Il y a d'ailleurs des billets pour samedi à 475,62 € avec Air China. Et puis, moins loin tout de même, je vous signale la Monumenta qui se tient à Paris, au Grand Palais et à laquelle nous consacrerons d'ailleurs notre prochaine émission.
En effet, prochaine édition qui sera diffusée dans 2 semaines, si je me souviens bien.
Tout à fait.
Sur Transistor, donc merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.